dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois d'avril 2007, selon Sandrina Joseph.
Quand Nicolas m'a proposé de participer à son émission de radio, il a bien entendu fallu que je me prépare. C'était une nécessité. Pas seulement préparer ce que j'avais à dire, mais me placer un peu dans la bonne orientation quant au sujet de l'émission. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'écouter quelques émissions qui avaient déjà été enregistrées auparavant. Puis, je me suis surprise à ne pas tant écouter les propos des invités qu'à remarquer à quel point le mot « événement » était récurrent, qui revenait d'une manière assez insistante dans les discours tenus par les invités précédents. Suite à ce constat-là, je me suis posé une question qui est la suivante et qui était assez déterminante par rapport à ce que je voulais faire ici aujourd'hui. La question, c'est la suivante. Est-ce que parler du dehors, ça reviendrait nécessairement à parler d'événements ou à parler en termes d'événements? C'est-à-dire à tenir un discours qui serait rempli d'événements ou en tout cas porteur d'événements. Comme on dit en anglais, un discours qui serait « eventful », qui serait plein d'événements, qui serait mouvementé. Et donc, quand je pense au mouvement, je pense au vivant. Un discours, donc, sur le dehors, qui serait vivant et qui, donc, serait en mesure de parler que ce que c'est que la vie, ce que c'est aussi que nos vies collectives, parce que quand on parle d'événements, il y a évidemment des événements individuels, mais il y a aussi et surtout des événements collectifs, ce qu'on vit ensemble. J'ai donc pris la décision de faire quelque chose que je ne fais pas généralement et d'écouter le téléjournal. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'actualité, qui lit les journaux, qui écoute les nouvelles. Ce sont généralement les gens de mon entourage qui me tiennent au courant des événements qui ont lieu, les événements collectifs, donc, qu'on vit ensemble. Le mois d'avril, donc, serait le mois où je me tiendrai au courant. Ceci dit, j'ai échoué à tenir la promesse que je m'étais faite. Je n'ai pas écouté les nouvelles pour deux raisons. D'abord, faute de temps, ce qui en fait... La première excuse est en fait un prétexte, parce que la vraie raison, qui est la seconde, c'est que c'était contre nature, c'est quelque chose que je n'avais pas envie de faire. C'est aussi quelque chose qui allait faire de moi une imposteur dans la mesure où je vous parlerai aujourd'hui, non pas en tant que moi-même, mais en tant qu'une autre, en tant que quelqu'un qui écoute les nouvelles. Ce qui n'est pas mon cas, puis l'émission portant entre autres sur moi, nos mois, le mois d'avril selon moi, il était finalement hors de question d'écouter les nouvelles. Je dois dire que je me sens assez inconfortable d'avouer une chose pareille, qui est une chose inavouable. Je sais que un bon citoyen sait ce qui se passe autour de lui, dans le monde aussi, donc il sait ce qui se passe au dehors. Ce qui fait que ce constat-là que j'ai fait, qu'il m'était impossible en fait de vous parler d'actualité aujourd'hui, m'a fait penser à au tout début de L'Infraordinaire, qui est un bouquin de Georges Perec, que j'ai amené avec moi, dont j'aimerais lire une citation. J'aimerais mieux le laisser parler pour moi, compte tenu du fait que je ressens un petit peu le besoin de légitimer le fait que l'actualité ne m'intéresse pas, parce que c'est l'ennuyant, le prévisible ou l'ordinaire qui m'intéresse plus que l'extraordinaire et donc l'événement. Je cite donc un passage de L'Infraordinaire. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. Cinq colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans, Tant de morts et tant mieux pour l'information si les chiffres ne cessent d'augmenter. Et un peu plus loin, Pérec écrit « Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire? Interroger l'habituel, mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons plus, il ne nous interroge pas, il ne semble pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve, mais où est-elle notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? » En relisant ce passage-là de l'infraordinaire, je ne peux pas m'empêcher d'abord d'endosser absolument ce que Pérec écrit. C'est tout à fait la manière que j'ai de me sentir devant Bernard de Rome quand j'écoute le téléjournal. L'autre chose dont j'ai envie de discuter après avoir lu ce passage-là, c'est le fait que pour Pérec, pour moi aussi, je dois bien l'avouer, l'eventful, et donc le mouvementé, la vie, se trouve pas dans l'événement, autant qu'il se trouve dans le banal, le quotidien, et donc l'ordinaire, si c'est pas l'infraordinaire, comme dit Pérec, qui va justement poser la question, mais où est-elle notre vie? Et donc, nous, moi, où sommes-nous, où suis-je? Est-ce que moi, mon corps, comme le dit aussi Pérec, moi comme individu, est-ce que je me trouverais pas plutôt là où il y a de l'eventless, et donc du stagnant, du vivant, mais dans la répétition et non pas dans la surprise et l'eventful. Qui plus est, mon mois d'avril a été principalement, tout tourne autour en fait de la même chose, mon mois d'avril, une des raisons donc pour lesquelles je n'ai pas écouté les nouvelles, qui est un prétexte, c'est-à-dire que j'étais très occupée, c'est entre autres parce que j'ai organisé un atelier sur la banalité dans la littérature contemporaine, ce qui fait que j'ai passé le mois d'avril à penser à ça, à mon atelier bien entendu, mais à la banalité aussi. J'ai donc consacré mon mois d'avril non pas à l'événement, non seulement dans mon travail, mais dans mon refus d'écouter les nouvelles, mais bien à l'absence d'événements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais tenir un discours qui ne sera pas « eventful », mais plutôt « eventless », et j'aime à penser qu'il ne sera pas forcément sans vie, parce qu'il sera dépouillé d'événements. Pour revenir à l'atelier auquel j'ai travaillé, pour les universitaires, le mois d'avril, en fait, c'est un des pires mois, probablement avec le mois de septembre, un des pires mois de l'année, dans la mesure où c'est là où presque tout survient, non seulement la fin de session, mais les corrections, les examens à préparer, les colloques, les nombreux colloques qui se font de plus en plus présents et insistants à partir du mois d'avril. Ce qui fait que j'ai dû, pendant tout le mois d'avril, négliger les tâches ménagères essentielles. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. J'ai à peine eu le temps de faire l'épicerie. À peine eu le temps de faire la vaisselle et la lessive. Donc, mois d'avril est un mois de nécessité domestique. J'en ai fait très peu, trop peu. De sorte que je retiens de mon mois d'avril l'impression d'avoir consacré presque tout mon temps au dehors, au monde extérieur. Trop peu au dedans. Donc, à mon espace intime, j'ai donc l'impression qu'au mois d'avril, c'est une impression assez lancinante, qu'on m'a volé quelque chose qui était très précieux, une partie importante de ma vie, de ma quiétude domestique, et que donc le eventful m'empêchait de vraiment me sentir moi, que j'avais besoin d'un peu d'eventless, j'avais besoin de ma quiétude domestique, j'avais besoin de m'occuper des objets qui m'entourent dans mon espace privé. J'avais envie qu'il n'y ait plus d'événements dans ma vie. En tout cas, pas de ces types d'événements-là qu'amènent la fin de l'année universitaire. Donc, tout ce long préambule, qui en fait n'est pas un préambule, ce préambule-là est en fait mon propos. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de nos manières de concilier le dehors et le dedans, notre manière de concilier l'événement et le pas digne de mention. L'extraordinaire et l'ordinaire, même l'infraordinaire, comme le dit Pérec. Les espaces publics du monde, puis l'intimité de la maison. Donc, j'ai envie de vous parler du monde et de moi dans le monde, avec l'intimité non seulement que je trouve à la maison, mais que je porte en moi. Où sont ces lieux de rencontre, donc, entre le dehors et le dedans? On peut penser un peu à... Parce que souvent, on pense le monde et soi, ou le dedans et le dehors, comme étant séparés par une frontière qui est évidemment perméable. Mais comme si on pense au dehors et au dedans, au moi et au monde, comme s'il n'y avait pas de lieu de friction, alors qu'il y en a un. Il y en a un constamment. La preuve étant que j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose quand j'étais trop prise par le dehors. Ça m'a fait penser à un petit quelque chose que dit Isabelle Descarrie dans Fiction domestique, que je vais me permettre de citer, encore une fois. J'aime bien citer les gens. La citation d'Isabelle Descarrie va comme suit. Alors qu'on passe le plus grand nombre d'heures à vivre l'extérieur, c'est pourtant cet univers intime du foyer qui nous ressemble le plus et dans lequel se cache notre histoire personnelle, enfermée dans des secrétaires, des boîtes à chaussures, des tiroirs, des coffres. La maison fait office de cordon ombilical, le cordon de sécurité pour affronter le monde qu'elle dédramatise. Une fois rentrée dans nos chaumières, le monde extérieur et ses affres nous paraissent tout à coup insipides, bénins. Ils s'apaisent. Ceci est vrai seulement si ce n'est pas le foyer lui-même qui est le lieu du péril, le lieu de la brûlure qui tue à petit feu, plutôt que celui de la chaleur douce et sécurisante. Pour Descarrie, il me semble encore une fois que, justement, le dehors et le dedans, l'extérieur puis l'intérieur, soient perçus d'une manière assez binaire, où le dehors, c'est là où on est pris par l'événement, alors que le dedans, c'est l'endroit où on se retrouve avec soi-même, où on est, nous-mêmes. Et que, donc, le foyer, ça serait un havre de repos, mais aussi, comme le dit si bien Descarrie, le foyer, le dedans, peut aussi se présenter comme un lieu de péril, ou un espace où il n'y a pas d'événement, où il se passe très peu d'événements, où la répétition, le quotidien, le banal règne. Mais cette absence-là d'événements n'empêche pas des moments de rupture dans l'itération des mêmes gestes, des mêmes objets qu'on voit constamment, des mêmes tâches qu'on va poser. Donc, pour moi, parler de la maison, parler du dehors, du dedans, puis parler de cette absence-là dans ma vie pendant le mois d'avril, de la domesticité, ça me force à mentionner ce que tout le monde sait déjà, en fait, qu'historiquement, parler de l'espace domestique et donc du manque d'événements, du pas digne de mention, c'est parler des femmes qui, pendant longtemps, ont été les reines du foyer ou les anges du foyer, pour faire une référence au poème de Coventry Patmore, « The Angel in the House », que pour ces femmes-là, donc, souvent, en tout cas dans la littérature, pour les femmes qui ne vivent que le domestique, pour lesquelles les événements de l'extérieur n'ont pas vraiment d'impact sur leur quotidien, sur leur vie, que souvent pour ces femmes-là, en tout cas en littérature, le foyer va justement se poser, comme le dit Descarrie, comme un lieu de péril, comme un lieu où le familier, le commun, peut devenir, si ce n'est pas dangereux, du moins étranger. Comme j'en ai moi-même fait l'expérience pendant le mois d'avril, où je rentrais chez moi et j'avais l'impression de plus vraiment connaître mon espace. Pas que c'était tellement désordre ou tellement sale, pas du tout, mais parce que les gestes quotidiens, les gestes familiers que je posais n'étaient plus là et que donc les objets qui devaient être à des endroits qui m'étaient familiers ne s'y trouvaient pas. Il y avait du désordre, en fait. Donc, il n'y avait pas de l'événement, mais il y avait du désordre dans ce qui aurait dû être en ordre. Bon, évidemment, l'histoire a changé de cours. Puis de nos jours, j'en suis la preuve, parler du foyer, ce n'est pas nécessairement parler des femmes, compte tenu du fait que moi, qui suis trop prise par le dehors, je me plains aujourd'hui de ne pas avoir assez de temps pour le dedans. Parler de mon dedans, en tout cas, le dedans, mon dedans du mois d'avril, c'est parler de mon besoin d'occuper de l'espace de l'intimité, en tout cas un peu, de retrouver pas seulement les gestes familiers, mais toucher aux objets qui ont besoin que je m'occupe d'eux littéralement, les vêtements à laver, de la vaisselle à essuyer, de la poussière à recueillir, tous ces gestes et ces objets-là que j'ai dû négliger à cause des événements qui se passaient dans un monde assez réduit, dans le monde académique, mais qui était un monde extérieur à mon espace privé. Je suis quelqu'un qui entretient un rapport très familier avec ces choses. Je travaille pour la plupart du temps à la maison. Je connais mon espace intime. Je me reconnais dans mon espace intime. Je m'y trouve, moi, et je m'y retrouve. Pendant le mois d'avril, par contre, j'ai eu l'impression que mes choses... Bon, le meilleur parallèle que je pourrais présenter, c'est le fait que mes choses sont peu à peu devenues à mes yeux comme des chats. C'est-à-dire, bien entendu, qu'ils sont restés inanimés. Mais j'avais l'impression que mes objets m'accordaient le privilège d'habiter leur espace, comme les chats le font. Puis au mois d'avril, ils ont pris possession de mon dedans, de ce qui me définit entre autres, c'est-à-dire mon espace intime, qui en ont pris possession, qui me laissaient occuper certains endroits où la vaisselle ou les vêtements à laver ou les trucs qui traînaient un peu sur le plancher, où ils me contraignaient à occuper un espace plus réduit, où littéralement on m'avait non seulement volé ma domesticité, mais aussi mon espace. Quand je retournais dans l'espace domestique, ça n'était plus tout à fait le mien. Pensez donc à la problématique de l'émission de Nicolas. Pensez à la problématique de mon atelier, aussi qui a lieu au mois d'avril, qui est mon mois. Ça venait dans sa foulée l'obligation de penser à l'étrangeté de l'espace privé que j'occupe. On pense souvent à l'étrangeté du monde extérieur, du monde qu'on habite ensemble. De là, le fait que quand il arrive des événements, on est encore plus conscient du manque de familiarité de cet espace-là public. On a l'impression de s'habituer au fait que l'espace public est toujours le même. Les grands événements qui se produisent nous montrent que, justement, non. Ça peut déraper. Pour moi, l'espace privé aussi peut déraper. Et que c'est un espace qui se définit par la familiarité, mais l'espace privé ne l'est pas plus pour moi, familier, que l'espace public, l'espace des événements. On ne trouve pas nécessairement dans l'espace privé du hors du commun, comme on en trouve fréquemment dans le monde extérieur, mais on trouve du pas normal ou du pas à sa place, du pas prévisible, du pas reconnaissable. Ça m'a fait penser à un autre bouquin, je suis vraiment venue accompagner aujourd'hui, c'est Le Micro, je crois, qui m'a donné envie d'apporter des amis avec moi. Ça m'a fait penser à la nouvelle « The Yellow Wallpaper » de Charlotte Perkins Gilman, qui a été publiée à la fin du 19e siècle, et qui raconte l'histoire d'une femme mariée à un médecin qui a des troubles nerveux, et que son médecin de mari, va décider de déménager pour quelques mois dans un manoir de campagne et installer la chambre dans l'ancienne nursery. Ce qui pose problème à la narratrice qui a des troubles nerveux et qui va devenir folle plus la nouvelle avance. Ce qui lui pose problème, ce sont pas les objets autour d'elle en soi, c'est pas le fait d'avoir été déplacée, d'avoir été dépouillée de son espace privé qui est de sa maison. C'est pas de se trouver dans un espace étranger qui est le manoir. En fait, c'est le papier peint jaune qui va lui poser problème et qui va entraîner un sentiment d'étrangeté angoissant au point où ça va la faire complètement basculer dans la folie. Je vous lis un petit extrait où la narratrice, qui est à tout le point pratique devenue folle à ce moment-ci de la nouvelle, où la narratrice donc dit « I wish I could get well faster. » But I must not think about that. This paper looks to me as if it knew what a vicious influence it had. There is a recurrent spot where the pattern lolls like a broken neck, and two bulbous eyes stare at you upside down. I get positively angry with the impertinence of it. and the everlastingness. Up and down and sideways they crawl, and those absurd, unblinking eyes are everywhere. There is one place where two breaths didn't match, and the eyes go all up and down the line, one a little higher than the other. I never saw so much expression in an inanimate thing before, and we all know how much expression they have. I used to lie awake as a child and get more entertainment and terror out of blank walls and plain furniture than most children could find in a toy store. Ce que la narratrice de Charlotte Perkins Gilliam, ce dont elle nous parle en fait ici, c'est cette capacité-là de découvrir dans le commun ou le familier le très inquiétant, comme va le devenir pour elle ce papier peint jaune qui, elle en est certaine, non seulement la fixe d'une manière insistante et impertinente, mais qui va aussi se mettre en mouvement où elle va deviner des corps de femmes qui se traînent entre les tiges, entre les différentes courbures du motif du papier peint. Loin d'être devenue folle au mois d'avril, je n'ai pas moins pris conscience de cette capacité-là à des objets qui me sont très familiers, à me devenir étranger, peut-être même hostile, qui me parlait avec insistance du fait que je les négligeais et que donc, par vengeance peut-être, ils se sont mis à envahir un espace qui était plus le mien. J'aimerais parler un petit peu de la figure de la folle, qui est une figure très récurrente, en tout cas dans la littérature féminine du 19e siècle, où la folle au foyer va probablement se poser comme le pendant à l'ange du foyer. Ce que les folles dans les récits de femmes au 19e siècle vont convier sur la scène la narrative, c'est qu'à force d'être obligée d'habiter l'espace intime, à force d'être confrontée au fait qu'il n'y a pas d'événement, qu'il ne se passe rien, que c'est toujours la même chose, la femme qui voit, qui comprend qu'il ne se passe rien, mais que ça n'empêche pas à l'étrange de survenir, cette femme-là va donc devenir folle. Elle est forcée à la domesticité, puis être forcée à l'espace intérieur, être coupée du monde extérieur, ça la pousse à la folie, parce que plutôt que de se reposer sur de grands événements collectifs, elle est prise avec des petits événements quotidiens qui ne sont pas considérés ou considérables, qui sont anodins, dérisoires, désuets, négligeables. Les lectrices et les lecteurs de Yellow Wallpaper, en fait, en tout cas la critique littéraire en vient généralement à poser cette question-là. Est-ce que la narratrice devient folle parce qu'elle est prise avec les choses qui vont s'animer autour d'elle? Ou est-ce que c'est parce que les choses s'animent autour de la narratrice qu'elle va devenir folle? C'est la grande question de l'œuf ou la poule. Il n'en reste pas moins qu'avec cette capacité-là de l'intérieur à créer du simili-événement ou du sous-événement vient cette impression-là de ne plus être chez soi quand on est chez soi. Les objets peuvent en effet nous placer constamment dans des états, différents états. Le meilleur exemple que je peux donner en ce moment, c'est le micro qui est devant moi, qui est un objet absolument étranger dans ma vie. Je ne me rappelle pas d'un moment avant aujourd'hui où j'ai eu à parler à un micro. Ce n'est qu'un objet. Et pourtant, s'il ne m'angoisse pas, il me rend assez inconfortable. D'abord parce que c'est un objet que je ne reconnais pas, que je suis capable de nommer, donc que je reconnais, mais que dans ma vie à moi, je ne reconnais pas. C'est aussi un objet étranger parce que le micro a cette particularité-là, cette capacité-là à se poser comme un intermédiaire entre moi et le monde. C'est au micro que je parle, mais c'est vous qui m'écoutez. Et le micro se pose sans doute comme la meilleure manière pour moi d'illustrer ces moments-là où le dehors et le dedans, où le monde et le moi rentrent en contact. Ici, il n'y a pas de friction. Pour la narratrice de The Yellow Wallpaper, il y a une énorme friction avec le papier peint jaune qui va d'ailleurs se mettre à déteindre sur ses vêtements et sur les vêtements de son mari. Il va avoir du jaune partout et que donc cette friction-là va être très littérale. C'est sans doute l'idée de ce micro-là, comme je le mentionnais rapidement tantôt, qui est très étranger pour moi et très étrange. C'est sans doute cette idée-là de parler à un micro et donc parler au monde, au dehors, qui m'a poussée à apporter des bouquins avec moi, qui sont des objets familiers, des objets qui appartiennent à mon intérieur, à ma maison, que j'ai décidé d'apporter dans cet espace privé de la pièce que j'occupe, mais public que m'impose le micro qui se trouve devant moi. Je reviens à la citation de Pérec qui disait qu'on ne remarque pas le journalier, qu'on ne remarque pas le banal ou l'ordinaire. Pour faire le commentaire suivant, ce n'est pas vrai que nous ignorons tous ou que nous jugeons tous l'ordinaire comme n'étant pas digne de mention. Parce que si les journaux, en tout cas, ne s'en occupent pas, les femmes écrivaines l'ont fait depuis, le font depuis un bon moment déjà. C'est peut-être une raison pour laquelle, Charlotte Perkins Gillam est sans doute un très bon exemple de cette capacité-là de plusieurs femmes écrivaines à parler du dedans, contraintes à parler de l'intérieur parce qu'elles ne connaissent pas le monde, mais pour montrer justement que il est possible de remarquer dans le journalier et dans le familier des choses qui ne le sont pas. C'est sans doute pour ça, comme je le disais avant de m'interrompre, que la littérature des femmes a longtemps été considérée comme une littérature mineure parce qu'elle l'est très littéralement. Elle parle de choses mineures, d'événements mineurs, d'espaces mineurs, de personnes mineures, de gens qui n'ont pas de choses, de moments, d'idées, d'objets qui n'ont pas une grande incidence sur la vie, qui ne font pas événements et qui pourtant produisent de la vie, produisent du vivant, du mouvement, de l'eventless qui va produire de l'eventful. La littérature des femmes, c'est donc pour moi une manière de voir ces lieux de friction où, même si on n'a pas forcément accès au monde extérieur ou même si on n'est pas forcément dans le monde extérieur, il y a toujours un endroit où le dedans et le dehors vont se toucher, où le réel est partout, il n'est pas juste dans le monde collectif, il est dans notre intimité aussi. Puis les vraies choses, donc, les vraies choses, pas seulement les choses dans le sens d'événements, idées, etc., mais aussi les choses, les objets, se trouvent aussi ou prennent un sens qui est absolument pas négligeable ou peut-être même essentiel dans l'ordinaire. Parler du mois d'avril, pour moi, c'était donc parler de ma manière d'appréhender le monde extérieur, d'être prise dans le monde extérieur, contrairement à la narratrice de Perkins Gillam qui veut sortir, s'échapper, quitter la chambre où va la harceler le papier peint jaune. Où moi, j'étais prise au dehors puis je voulais rentrer en dedans. Quand je rentrais en dedans, c'était un espace très hostile. Notre manière donc d'appréhender le monde extérieur à partir du seuil de notre maison, que ce soit comme moi qui étais prise à l'extérieur, donc du côté du seuil qui m'empêchait d'entrer en dedans, ou comme la narratrice de Charlotte Perkins Gillam, de regarder le monde du seuil de sa maison à l'intérieur de la maison, à travers les fenêtres, d'appréhender le monde extérieur comme si on était à côté à la clôture de notre jardin, où la clôture est bien entendu une limite, mais où elle est perméable, où elle nous permet justement de nous frotter au dehors. Ce sont des endroits physiques qui, pour moi, sont des endroits où le monde vient à la rencontre de notre intimité, où le monde vient à notre rencontre, où on n'est pas forcément obligé d'aller à la rencontre du monde. Et donc à la recherche d'événements. On n'est pas obligé de partir à la recherche d'événements, comme s'il s'agissait d'une chasse au trésor. Cette pensée-là m'a fait penser au commentaire sur lequel Geneviève Rizac va ouvrir La marche du cavalier, qui est un essai sur différentes femmes écrivains. Et un essai qui va commencer par une anecdote sur Nabokov, à qui on a demandé, lorsqu'il était professeur invité à Cornell University en 1951, à qui on a demandé de faire une conférence sur Jane Austen. Et c'est une invitation qu'il a refusée, parce que c'est justement pour lui, c'était justement de la littérature mineure qui parlait de choses mineures. Nabokov va répondre à Edmund Wilson, qui l'invite à faire une conférence sur Jane Austen. « Merci de votre suggestion, je n'aime pas Jane. En fait, j'ai des préjugés. » Et un peu plus loin, Brizac va écrire « Vladimir Nabokov en témoigne quand, après s'être donné tant de mal pour cette pauvre mademoiselle Austen, et donc après avoir lu Orgueil et préjugés, et sa collection de coquilles d'œufs dans du coton, il reconnaît entre hommes s'être passablement ennuyé, Elle n'est pas très excitante. Je n'aime ni la porcelaine ni les arts mineurs, dit-il. Et Jane a autant de charme qu'une araignée. Et donc, pour Nabokov, il n'y a pas d'événements non seulement dans l'intrigue, où ce sont des événements qui ne sont pas dignes de mention. Ce sont des espaces qu'on ne devrait, sur lesquels on ne devrait pas perdre de l'encre. Mais c'est aussi parce qu'on y parle de choses mineures, des textes mineurs, sans intérêt, ou en tout cas sans grand intérêt. Ce qui va pousser Brizac à citer Virginia Woolf, qui est une de ces femmes-là qui a parlé du très peu, de ces moments-là où les papillons surviennent et où on entre en contemplation. Donc, de ces choses-là qui sont minuscules, mais qui produisent quelque chose qui ressemble étrangement à de l'événement. Je cite Brizac. « Pourquoi, se demande Virginia Woolf, tandis que Vladimir Nabokov fait part de son ennui, Jane Austen a-t-elle choisi de décrire la banalité de la vie de tous les jours, les pique-niques derrière le manoir et la vie dans un escalier d'une maison de campagne? Parce que, dit-elle, pour cette jeune fille incorruptible, c'était des lieux où résonnaient le mieux, le bien et le mal, l'aveuglement et la bêtise, la cruauté et la beauté. Dans ce décor familier, elle se sentait sûre de savoir transmettre ce qu'est la vie. Une illusion à décrire derrière l'animation superficielle qui est toute histoire, et moi j'ajouterais qui est toute vie sociale, qui est tout monde collectif. » Voilà donc deux manières de lire un texte mineur, non pas en termes de qualité littéraire pour Nabokov, oui, mais pour moi non, mais bien en termes de vie, de sa manière de nous parler de la vie. Parce qu'on parle du domestique, de ce qui se passe sous un escalier, de ce qui se passe dans le jardin du manoir, de ce qui se passe dans ces espaces-là qu'on ne partage pas avec le monde extérieur ou comment ces espaces-là n'en sont pas moins constamment en contact avec le monde extérieur, avec le vivant, le eventful, avec le mouvementé et la vie. Je ne sais pas trop comment conclure. Je vais donc revenir sur le titre de l'émission de Nicolas pour boucler un peu la boucle. Le dehors, l'impossible et le moi. Pardon, le dehors, l'impossible et moi. C'est pas innocent que j'ai dit le moi. Le dehors, l'impossible et moi. Quand Nicolas m'a invité, quand j'ai relu non seulement le titre de l'émission, mais le descriptif, j'ai en quelque sorte décidé de vous parler du dedans, de l'impossible et moi, qui en fait, qui revient à peu près à la même chose que de vous parler du dehors, de l'impossible et moi. Parce qu'au mois d'avril, le dehors est devenu impossible pour moi, à partir du moment où le dedans est devenu impossible, qui est donc devenu hostile et étranger. Peut-être je devrais dire que le dehors est devenu impossible pour moi à partir du moment où le dehors m'était à la limite plus familier, plus ordinaire, plus commun que le dedans, où pourtant je me trouve partout et dans tous les coins.